Marie Durubella, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, de plus en plus de filles en France et dans toutes les sociétés occidentales, je pense, font des études longues, obtiennent des diplômes de haut niveau. Elles sont majoritaires même dans certaines filières, comme les facs de médecine, je crois. Alors, peut-on parler pour autant d'une égalité ?
En fait, c'est un bilan en demi-teinte. Il y a des domaines où les filles vraiment font mieux que les garçons et sur des domaines qui ne sont pas complètement anecdotiques. Par exemple, les petites filles apprennent mieux à lire que les garçons. Elles redoublent moins au premier niveau de l'école. Et ça, c'est pas rien. Bien apprendre à lire, ça leur servira toute leur vie. Et c'est pas un hasard si on les retrouve effectivement plus nombreuses dans les études générales longues. Par exemple, il y a des pays où même au niveau du doctorat, il y a plus de filles que de garçons. Donc ça, c'est plutôt un avantage des filles. Pour autant, si on regarde, mais ça c'est assez français, les grandes écoles, les filières très sélectives, polytechnique, les grandes écoles de commerce, etc. Là, les filles continuent à être très minoritaires. Les grandes écoles d'ingénieurs, c'est moins d'un élève sur quatre. Donc elles continuent à être très minoritaires dans ces filières qui, dans notre pays, sont aussi les plus rentables.
Alors comment ça se fait justement? C'est quand même paradoxal, puisqu'elles sont meilleures à l'école. Et au bout du compte, elles ne se retrouvent pas dans les filières dites prestigieuses.
C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui interviennent. D'abord, le diplôme qu'on obtient, la réussite, les notes, etc., c'est la face visible de l'iceberg. Mais il ne se passe pas que ça à l'école. À l'école, les élèves aussi apprennent à prendre confiance en eux, à se sentir bon dans telle ou telle matière. Ça se voit peut-être pas tout de suite, mais ça se verra petit à petit. Et en l'occurrence, à l'école, les filles intériorisent l'idée qu'il y a des matières pour les filles, d'autres pour les garçons. Donc des matières où elles sont censées être moins bonnes. Et il se trouve, j'allais dire comme par hasard, que c'est plutôt les matières qui mènent à ces filières d'excellence, les matières scientifiques en particulier. Donc les filles apprennent ça. Et même si elles réussissent bien jusqu'à 18-20 ans, petit à petit, ça va réapparaître, si on peut dire. Et puis, il y a aussi ce qu'elles anticipent du monde du travail. On ne se lance pas comme ça vers des professions qu'on perçoit comme très masculines.
Alors, est-ce que c'est l'école qui serait sexiste, une sorte de sexisme rampant, inconscient de la part des professeurs? Comment ça se passe?
Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que l'école est sexiste. L'école, elle est dans la société. Et à la fois les enseignants et les élèves, ils sont dans la société, ils arrivent à l'école avec leur représentation de ce qui est normal et bon pour un homme, pour une femme, ce qu'on appelle les stéréotypes, une vision un peu schématique de ce qui est censé être masculin et féminin. Ils ne sont pas en avance sur leur temps, ils sont comme la société dans laquelle ils sont. Et ça, effectivement, ça va quand même au jour le jour, dans ce qui se passe dans le quotidien de la classe, affecter ce qui se passe. Les enseignants ne vont pas traiter des petits garçons et des petites filles pareils, les élèves entre eux vont se regarder comme des garçons et des filles, et c'est tout ça qui va produire ces différences.
Oui, il y a eu des études, je crois, qui ont été faites, notamment en Suède, où des professeurs se sont filmés, et après, en regardant ces films, se sont rendus compte qu'ils ne traitaient pas de la même manière les filles et les garçons. Vous connaissez Marie Durubella, ces études ?
Oui, alors il y a les mêmes, moins développés dans notre pays, qui montrent que les enseignants, de manière complètement inconsciente, c'est inconscient, parce qu'officiellement à l'école, les élèves n'ont pas de sexe. On traite pareil les élèves, quel que soit leur milieu social, leur sexe, etc. Bon, dans la réalité, c'est un peu différent. Et les enseignants s'attendent à des performances meilleures de la part des garçons ou de la part des filles dans les matières qui sont étiquetées dans notre pays comme masculines ou féminines. En mathématiques, par exemple, on considère qu'il est normal qu'un garçon réussisse mieux, donc on va plus le stimuler, on va lui laisser plus de temps pour répondre par rapport à une fille. Et il y aura des différences dans l'autre sens, on en parle moins, dans les matières censées être féminines, comme les langues, le français, toutes les matières où on exprime des sentiments.
Est-ce que ça joue aussi plus sur des choses psychologiques, en dehors des matières différentes entre filles et garçons? Est-ce qu'il y a des attitudes qui sont différentes aussi à l'égard des filles et des garçons?
Alors, d'une manière générale, on fait plus confiance aux garçons en termes de compétences générales. On pense qu'ils iront plus loin, alors que les filles sont plus battues d'avant, d'une certaine manière, à l'école. Donc, parce qu'on leur fait moins confiance, elles auront moins confiance dans leurs propres capacités.
Bon, c'est un peu sévère tout ce qu'on dit là sur les enseignants, mais j'imagine qu'évidemment, tout ça, c'est le reflet de la société, ce que vous disiez au début. C'est la famille aussi, c'est la société, les images, les représentations de la femme et des garçons.
Absolument, c'est-à-dire que l'école n'est pas une île, hein, comme ça, elle est vraiment nichée dans une société où il y a des messages publicitaires, des séries télévisées, de la presse pour filles et pour garçons, et puis il y a le monde du travail. Hein. Les élèves ne sont pas fous, ils voient bien le monde des professionnels, ils voient qu'il y a des professions où il n'y a que des garçons, d'autres que des filles, et c'est toujours très difficile d'être pionnier en la matière, de se rêver dans une profession pour laquelle on n'a pas de modèle. Donc c'est tout ça, bien sûr, qui marque ce qui se passe dans les classes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rêver davantage les filles à des professions différentes, par exemple? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour venir à bout de ces inégalités? On a vu que certains préconisaient, par exemple, de revenir sur la mixité, cette mixité qui a été quand même un grand acquis des années 70 en France. Est-ce que c'est ça la solution, Marie Durubella?
Oui, je pense que personne ne pense très sérieusement à revenir entièrement sur la mixité. Ce que disent certaines personnes, dont je peux être d'ailleurs, c'est qu'il serait utile, non pas de revenir sur la mixité, parce que la mixité garantit qu'on ait des programmes communs aux deux sexes. Ça, c'est tout à fait fondamental. Hein. Si on restaurait des classes de filles, des classes de garçons, très vite, on leur ferait peut-être pas faire la même chose. Et ça, évidemment, on peut pas le défendre. Mais on pourrait très bien avoir dans la semaine scolaire des moments entre filles ou entre garçons pour réfléchir à ces phénomènes-là, dont on ne parle jamais à l'école. Hein. Pourquoi, quand on analyse un texte de français, par exemple, les garçons n'osent pas exprimer ce qu'ils ressentent? On pourrait en parler quand même. De même, pourquoi les filles n'osent plus aller en cours de gym à la piscine, parce qu'elles se font moquer d'elles par les garçons? Donc, les filles pourraient reprendre confiance en elles dans certaines matières si on analysait leurs difficultés. Mais ça, c'est une part seulement des solutions. Je pense que quand on parle de solution, il faut bien se dire que c'est une évolution sur le long terme, hein, qui concerne à la fois la famille et le monde du travail. Plus le monde du travail devient mixte, dans certaines professions, il l'est, hein, par exemple la médecine, effectivement, eh bien, ça, petit à petit, les filles et les garçons ont des modèles devant eux qui les incitent à s'engager dans ces professions. Mais ça, c'est lent. Hein, c'est lent et il y a déjà eu des évolutions. Il ne faut pas être trop pessimiste. Hein, si on regarde en 20 ans, il y a des professions qui sont maintenant bien féminisées, que ce soit dans le secteur de l'informatique, de la santé, les cadres de la fonction publique. Donc, il y a des professions mixtes.
Marie Durubella, pour en revenir à l'éducation, est-ce qu'il y a une réflexion importante à l'éducation nationale sur ces questions-là, justement, d'égalité entre filles et garçons?
Ben, elle l'est de temps en temps. J'allais dire, c'est un marronnier, comme on dit dans la presse. C'est-à-dire que périodiquement, on ressort.
On en parle et on n'en fait rien.
Oui, voilà, on en parle. Il y a eu des avancées. Hein. Il y avait eu en 2000 un très bon bulletin de l'éducation nationale qui expliquait aux enseignants comment faire pour être plus équitable dans leur interaction avec les élèves garçons ou filles. Bon, ça, c'était en 2000. Certaines académies ont fait des formations pour cette question. Mais bon, à l'heure actuelle, l'actualité n'est pas la formation des enseignants, comme on le sait, puisqu'elle a été largement supprimée. Et donc, tant qu'on ne sensibilise pas les enseignants explicitement à ces questions, ils ont tellement d'autres priorités à gérer
à faire,
dans leur
oui.
classe, hein, que bon, on se dit après tout, et c'est vrai d'ailleurs, les inégalités garçons-filles, c'est pas ce qui domine dans les classes. Les inégalités selon le milieu social
oui.
sont tout à fait plus importantes.
Oui, les inégalités femmes-hommes se doublent souvent d'inégalités sociales.
Oui, enfin, ça, c'est pas si clair, justement, parce que les garçons de milieux défavorisés sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés, notamment pour apprendre à lire, pour s'adapter au rythme de l'école. Hein.
Ouais.
C'est vraiment là qu'il y a le plus de problèmes. Les filles de milieux défavorisés, dans la mesure où elles ont quand même un petit comportement de fille, c'est-à-dire qu'elles sont dociles, elles font des efforts pour apprendre, elles s'en sortent plutôt mieux. Donc justement, ça s'articule de manière assez complexe, cette affaire-là.
Ouais.
Mais dans notre pays, c'est quand même les inégalités sociales hein, qui créent le plus de différences entre les enfants.
Est-ce que la solution, Marie Durubella, ne serait pas à chercher, par exemple, du côté de la Suède, encore une fois, un pays qui est assez en avance sur ces questions? On a vu qu'il y a des écoles maternelles là-bas qui optent pour un type d'éducation assez révolutionnaire, où toute référence à la différence féminin-masculin est gommée, ou du moins c'est ce qu'on prétend. Les livres sont soigneusement triés, on a sorti les Belles au bois dormant, les poupées pour les filles, les voitures pour les garçons. Est-ce que c'est vers ça qu'on doit tendre? Est-ce que la France peut aller vers ce modèle-là qui n'est peut-être pas tout à fait notre culture?
C'est-à-dire ces efforts qu'on fait explicitement à l'école, ils n'auront d'efficacité que si c'est accompagné d'un consensus global. Hein. C'est-à-dire que si on fait telle ou telle chose à l'école et que les parents ne le sentent pas bien, ne sont pas d'accord et que dans le même temps, dans la vie sociale, les élèves voient des publicités, des séries qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'école toute seule, son impact est quand même relativement limité.
Marie Durubellin, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir ?
Écoutez, ça dépend des fronts, si on peut dire. Sur le front du travail et de l'éducation, je pense qu'on peut être relativement optimiste, si ce n'est qu'il ne faut pas sacrifier les garçons et qu'il faut vraiment s'attaquer au problème l'échec scolaire précoce de certains garçons, notamment en lecture. Là où je suis moins optimiste, c'est sur le plan des images et de la sexualité en général, puisque ce qu'on a appelé la libéralisation des mœurs fait aussi que de plus en plus, on met sur le devant de la scène des images hypersexualisées des femmes, avec cette montée aussi de ce qu'on a appelé le porno chic, qui font que de plus en plus, on trouve que c'est normal, sinon c'est qu'on n'est pas libéré, de mettre sur le devant de la scène des femmes dénudées. Maintenant, sur les campus américains, donc des jeunes très instruits, on a des soirées où si une jeune fille ne se met pas toute nue, on lui dit qu'elle est coincée. Donc, on a sur ce terrain, sous couvert de libéralisation, une représentation qu'on peut trouver discutable et de plus en plus sexuée, en tout cas. Et à mon avis, ça, c'est relativement inquiétant, bien qu'on n'en parle pas beaucoup en France.
Merci, Marie Durubellin.